Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler.
I touched my nose too.
Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. À tout à l'heure.
Bienvenue dans cette promenade sonore. Vous êtes au point de départ, sous l'abribus situé devant le commissariat des Canourgues.
Belle journée, commissaire. Catherine sursaute, se retourne et salue gentiment le planton qui l'interpelle devant le commissariat.
Bonjour, Martin.
Commissaire Catherine Bozzi. Elle n'en a pas encore l'habitude. Presque un mois qu'elle a été nommée à ce poste et toujours ce sentiment d'irréalité.
J'aurais dû éviter de sourire à ce policier et montrer un peu plus de rudesse. L'autorité, Catherine, l'autorité ne se perd que trop facilement dans cette jungle masculine.
Dirigez-vous vers la droite, vers le rond-point Jean Monnet.
Pour l'heure, elle a décidé de quitter ce bureau trop étroit qu'elle n'a pas encore apprivoisé. Les allées venues bruyantes, les regards par en dessous, les monceaux de paperasses qui s'accumulent, tout ça n'aide pas à la concentration.
Au moins profiter de mon grade, sans avoir à donner aucune justification à personne.
Elle veut réfléchir à cette obsédante affaire, la disparition inexplicable de la jeune Zora Bensitri. Elle promène son regard autour d'elle et décide d'aller faire un tour dans la cité. Du côté du domicile de la disparue. Elle se dirige vers le boulevard Robert Schumann et se met à penser à une musique de l'autre Schumann, celui avec deux N à la fin.
Je croyais que l'avenue portait le nom du musicien et pas celui de l'homme politique défenseur de la Nouvelle Europe.
Ce morceau, doux et mélancolique, s'appelait « Rêverie », un morceau qu'elle avait appris lors de son court séjour au conservatoire de Salon.
C'est cette pièce pour enfants qui m'a fait tenir 3 ans dans cet honorable établissement, tenu par la main ferme de Mademoiselle Bruyère.
Arrivée au rond-point, prenez à gauche, en direction du parking.
Arrivée au rond-point Jean Monnet, elle change d'avis. Une envie subite, sans raison apparente, la pousse à monter vers la Bastide Haute. Elle bifurque donc sur sa gauche, boulevard des Nations Unies, puis, traversant les premières tours, elle se glisse entre l'immeuble Les Grillons et celui des Cigales.
Grillons, Cigales. Quel débordement d'imagination!
Prenez l'escalier en face, montez dans la pinède.
Reprenons. Zora Bensitri, 13 ans, a disparu en allant à son cours de musique à la MJC des Canourgues mercredi dernier. Disparition, d'autant plus mystérieuse que dans ce quartier où tout le monde se connaît, au moins de vue, personne ne se souvient l'avoir aperçue dans la cité cet après-midi-là. Elle a embrassé sa mère, a attrapé sa sacoche de musique et est sortie, le casque de son MP3 vissé sur les oreilles, a priori contente d'aller à la MJC. Et depuis, plus rien. On a questionné presque tout le quartier, on a fouillé partout, depuis son immeuble jusqu'au canal, en passant par ce même bois de la Bastide Haute. On a visité toutes les caves, ratissé le moindre recoin. Rien, rien. Pas le moindre indice.
Dans les affaires auxquelles elle est journellement confrontée, les agressions envers les jeunes adolescentes sont de loin celles qu'elle déteste le plus. Elle gravit un petit escalier au fond de l'allée, séparant les deux tours. Tourne à gauche, dans un chemin de terre qui déjà gomme la cité, et rejoint le chemin de la Bastide Haute. Au fond d'elle-même, elle sait très bien les raisons, ou plutôt la raison, qui la pousse vers l'ancien domaine. Ses premières amours. Son premier vrai baiser. Une déferlante de souvenirs la submerge.
Jean-Paul Boulard, mon inséparable ami et puis amoureux. Il rêvait de devenir explorateur. Nous nous promenions dans cette forêt. Jean-Paul, lui, était en Amazonie à la recherche de civilisations inconnues. Et moi, je suivais le héros. Je me demande si nos initiales au milieu du cœur barré sont encore gravées sur le cyprès qui se dresse près du hangar de la Bastide.
Arrivé au bout du sentier, prenez à droite par le portail de la Bastide Haute.
Passant le portail de pierre et de fer, elle gravit la route, aujourd'hui goudronnée, et s'efforçant de chasser la vague de nostalgie qui l'envahit, prend conscience de l'étrange frontière qu'elle est en train de parcourir. D'un côté, la nature rêche et paisible de la Provence. Les pins d'Alep, les chênes verts, les chênes kermès, les bosquets de lauriers-teints, les argelasses sur lesquels ils déchiraient leurs vêtements, les pistachiers, autant d'essences dont les exhalaisons vous sautent aux narines dès le printemps. Et de l'autre, la cité, avec ses immeubles, ses tours, ses centres commerciaux, ses places bétonnées et ses parkings remplis de voitures, qui, vu de haut, ressemblent à un jeu d'enfants bien rangé. Cette cité qui semble vouloir ronger encore et encore du terrain.
Je suis bien sur une frontière, et la guerre froide qui sépare ces deux mondes est presque perceptible. Qui la gagnera? La nature reprendra-t-elle ses droits comme dans un film de science-fiction? Ou l'urbanisation sauvage en viendra-t-elle à bout?
Pensez à la cité la fait redescendre sur terre.
Il ne s'agit certainement pas d'un enlèvement avec demande de rançon au vu des revenus de la mère. La fugue semble exclue. D'après tous les témoignages recueillis, Zora est bien dans sa peau et ne présente aucun trouble particulier. Au contraire, elle semble très appréciée de ses copines, de ses voisins, des résultats plus qu'honorables à son collège en Moulin, bien dans sa famille. Bref, juste une jeune collégienne d'aujourd'hui. Rien de particulier. Ah, si ce n'est l'absence du père. Orpheline. Comme moi. Mort dans un accident du travail à la Solmer. Bêtement. Oui. Est-ce que la mort peut être qualifiée de bête?
En direction du petit hangar.
Perdue dans ses réflexions, Catherine arrive à la Bastide Haute. Un parking, goudronné lui aussi, a été aménagé sur la première restanque. En face, au fond, toujours la maison du gardien. Sur la droite, la Bastide proprement dite, avec son pigeonnier, cerclée de carreaux vernissés pour empêcher les rats de monter dévaster les nids. Aujourd'hui, la Bastide appartient à la ville et héberge le centre aéré du quartier. En d'autres temps, cette Bastide avait appartenu à un cinéaste, ami de Marcel Pagnol, Fernand Rivers. Sur la gauche, le hangar et son cyprès.
Petite, je me faufilais avec Jean-Paul Boulard à l'intérieur. On jouait au milieu des morceaux de décor. Et il y avait même les affiches décolorées d'un film. Ah, comment il s'appelait déjà ? Le cheminot, c'est ça. Je me rappelle encore.
Catherine ne peut s'empêcher de diriger ses pas vers la remise pour tenter d'y retrouver les fameuses initiales dans le cœur percé. Au premier coup d'œil, elle le repère. Il est là, gravé maladroitement dans l'écorce rabougrie de l'arbre, à peine effacé. Son pouls s'accélère.
Dirigez-vous vers le cyprès, à gauche du hangar.
Mais quelle bécasse sentimentale je fais, moi !
En s'approchant, elle constate que les initiales sont légèrement différentes. Non pas JPB plus CB, mais JPB plus ZB.
Pourquoi ? Un Z à la place du C ?
Légèrement déçue, la commissaire Bodzi décide de descendre dans la cité.
Revenez sur vos pas, en direction de la Bastide.
Dépassant le mas, elle repense au vieux gardien qui habitait la maison du fond et qui s'occupait du domaine.
C'était un vieux légionnaire à la retraite qui nous faisait détaler et terroriser les gamins les plus téméraires.
Les enfants croyaient que cet homme avait connu dans le désert saharien une soif extrême. Soif qu'il avait obligé à tuer son propre dromadaire pour se désaltérer de son sang. Et depuis, la rumeur disait que, dans son arrière-cuisine les soirs de pleine lune, il égorgeait des animaux domestiques attrapés dans le quartier pour se repaître de leur sang.
Prenez le petit chemin de terre qui longe la Bastide et revient vers la cité.
Histoire de Minot, bien sûr. Des années plus tard, j'ai appris que bien au contraire, ce vieux légionnaire bougon et impressionnant avait tout au long de sa vie œuvré pour le bien des enfants en difficulté et des familles les plus démunies de la cité. Il avait failli nous surprendre, Jean-Paul et moi, quand nous gravions nos initiales sur le cyprès.
Une pensée soudaine lui traverse l'esprit.
Les initiales ? ZB, Zora Ben Citri. Mais c'est quoi cette coïncidence ?
Une foule de questions se bouscule dans la tête de la commissaire.
Qui a effacé le C de Catherine pour le remplacer par le Z de Zora ? Qui et pourquoi ? Pourquoi y aurait-il un rapport entre moi-même et cette petite Zora dont j'ignorais tout il n'y a pas 5 jours ? Qui est alors ce nouveau JPB ?
Perdue dans ses réflexions, Catherine Bodzi longe la Bastide et descend par le petit sentier de terre qui mène derrière les immeubles.
En bas de l'escalier, continuez sur votre gauche, puis tout de suite à droite.
Et puis, presque imperceptiblement, un saxophone fait vibrer l'air chaud de cet après-midi de juin. Une musique qui semble familière.
Les rêveries de Schumann. On dirait un arrangement pour saxophone.
Attirée malgré elle, Catherine se laisse conduire par cet air étrange, mais qu'elle connaît si bien. Elle se sent prise, comme hypnotisée.
Comme les enfants du joueur de flûte de Hamelin. Ce conte étrange que mon père me racontait.
En ce temps-là, la ville de Hamelin était envahie par les rats et les habitants mouraient de faim. Le maire de Hamelin fit venir le joueur de flûte et lui promit une prime de 1000 écus pour les débarrasser des rats qui infestaient la ville. L'homme prit sa flûte et attira par sa musique les rats qui le suivirent jusqu'à la rivière où ils se noyèrent.
Arrêtez-vous un instant.
Bien que la ville fût ainsi libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte en le chassant à coups de pierre. Il quitta le pays, mais plus tard, lorsqu'il y eut une nuit paisible, le joueur de flûte joua de nouveau, attirant cette fois les enfants de Hamelin. 130 garçons et filles le suivirent hors de la ville, jusqu'à un puits qui se referma derrière eux. Voilà le conte que petite, elle avait détesté.
Quel joueur de flûte a suivi Zora? Quelle musique elle a envoûtée? Il faut que je retrouve ce puits. Je sais qu'il le faut, c'est important.
Prenez à droite vers la cité.
Elle longe le réservoir d'eau couvert de tags qui sert de terrasse aux jeunes qui veulent pour un temps échapper au béton. D'ailleurs, allongées au soleil, trois jeunes filles écoutent de la musique R&B sur un blaster tout en riant. Catherine se revoit au même âge, sur ce même toit, en train de rêvasser au prince charmant.
Qui à l'époque devait ressembler à Alain Barrière.
Catherine arrive devant un petit immeuble, brûlé, muré, abandonné. Le son semble venir des entrailles du bâtiment. Tout bascule alors. Elle a 10 ans. Elle est en Algérie. Et la guerre fait rage.
Des coups de feu. Des bombes. Des cris. Au fond d'une impasse, mon père, le sang. Le sang et mon petit frère terrorisé. En larmes, dans mes bras. Je le serre.
Prenez vers la gauche.
En 1962, le père de Catherine, Alain, était policier à Alger. Il militait pour la décolonisation et ne cachait pas ses sympathies pour le FLN. On l'avait retrouvé mort, dans cette impasse sordide, sans qu'on sache par qui il avait été assassiné, ni même de quel côté politique se situaient ces assassins. La mère de Catherine avait courageusement relevé la tête et décidé de rentrer en métropole. Elle avait débarqué avec de nombreux autres sur un quai de la Joliette à Marseille, perdue dans cette foule comme sur une autre planète. Personne ne les attendait, comme personne ne semblait attendre personne dans cette gare maritime. Et aujourd'hui, c'est elle qui est policier.
Est-ce que mon père serait fier de moi?
Traversez le passage piéton, allez à gauche.
Catherine lève les yeux. Elle a 13 ans. Autour d'elle, c'est la campagne. Les immeubles ont disparu. Nous sommes 40 ans auparavant. Plus loin, au sud, se dresse le Saint-Norbert, le premier immeuble des Canourgues. C'est là qu'elle a habité avec sa mère et son petit frère. Ils avaient emménagé dans un petit appartement de cette HLM que tout le monde appelle le U. Catherine revoit les champs d'oliviers, les vignes, les petits jardins potagers, les cabanons de son enfance, qui seraient bientôt remplacés par les tours des quartiers nord de Salon, la cité des Canourgues.
Avant le virage, prenez à droite, montez les marches et dirigez-vous vers les bancs.
Avec Jean-Paul Boulard, mon voisin du 4e, rapatrié lui aussi, on allait chiper des cerises ou des grappes de raisin suivant la saison.
Ils avaient goûté et craché les olives sur l'arbre, fait des petits radeaux en carton qui glissaient sur l'eau des roubines et qu'ils suivaient en riant. Ces petits radeaux qui déjà faisaient voyager Jean-Paul et rêver Catherine. Et ils avaient vu pousser les immeubles qui rongeaient leur campagne.
Asseyez-vous sur un banc.
Sans s'en rendre compte, inconsciemment guidée par la musique, elle arrive dans une allée flanquée d'un cercle en béton. Au centre, accroché à un micro-coulier, se tient un jeune adolescent qui lui sourit.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Tu vois ce rond, madame?
Oui, bien sûr.
Zora, elle dit que...
Tu connais Zora?
Pourquoi je serai là, alors? Zora, elle dit que ce cercle, c'est un grand radeau qui peut t'emmener où tu veux.
Un radeau?
Une soucoupe volante, une machine à remonter le temps, un radeau, comme ce que tu fabriques pour rêver.
Tu fabriques des radeaux avec Zora?
Comme tous les enfants. Vous avez construit des radeaux, vous aussi, non?
Peut-être, oui. Et c'est Zora qui t'a raconté le pouvoir du grand cercle?
Ouais. Un jour, elle m'emmenait avec elle. Je suis venue m'asseoir là, au centre, et j'ai fermé les yeux. Et j'ai vu. Et Zora, elle disait comme ça. Il y a longtemps, avant la construction de la cité, sous ce cercle magique, il y avait un autre cercle. Un cercle où jamais rien ne poussait. On avait beau labourer, l'irriguer, le triturer dans tous les sens, tu pouvais rien faire. La terre restait toujours stérile dans ce fameux rond mystérieux. Et les vieux, ils disaient que c'était la trace d'une larme du diable. Et c'est vrai, après avoir semé la peur, la misère et la maladie sur une bonne partie du monde, content de son travail bien fait, le diable, il est venu se reposer ici, dans ce petit coin de Provence paumé. Et pendant qu'il dormait, des enfants qu'il avait vus, ils lui ont attaché la queue à un gros rocher du Talagar. Alors, quand le diable, il a voulu s'envoler pour aller mettre le Y autre part, sa queue, elle est restée coincée. Et il a eu tellement mal que ça lui a arraché une larme de douleur. Et c'est cette larme qui, en tombant sur le sol, a créé ce cercle magique. Et même quand on a voulu construire un immeuble sur cet emplacement, ça a été impossible de creuser. Toutes les machines ont cassé leurs dents de fer. Alors, on a déplacé l'immeuble prévu à cet endroit, et sur le cercle, on a coulé ce rond de béton. Tu vois le nid coucouli au centre? C'est le cinquième qu'ils essayent de faire pousser. Hé, ils essayent, mais moi, je sais qu'il ne va pas pousser.
C'est une belle histoire, dit en effet. C'est Zora qui te l'a raconté?
Qui me l'a fait voir, madame la commissaire.
Ah, tu sais qui je suis? C'est toi qui joues du saxophone?
Non, moi je joue du djembé. C'est Zora qui joue du saxo.
Zora joue du saxophone? Elle connaît les rêveries de Schumann?
De qui?
Schumann.
Connais pas.
Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur Zora?
Elle est très intelligente. Et jolie. Et je veux voyager avec elle. C'est grâce à elle que je vais parcourir le monde, tout voir et tout connaître.
Mais aujourd'hui, tu sais où elle est?
Non, bien sûr.
Et tu n'es pas inquiet?
Un peu, mais pas trop. Elle doit voyager.
Voyager? Mais où?
Elle sait voyager, avec ses cahiers. Elle écrit tout le temps, ou presque. Vous avez qu'à demander à sa prof de français, c'est la meilleure en rédac.
Qui est-ce, sa prof de français?
Madame Chifoulili, du collège Jean Moulin. Au revoir, madame la commissaire.
Attends, et toi? Comment t'appelles-tu?
Jamel Pierre Bayouad.
Jamel Pierre?
Pour faire plaisir à mon père et à ma mère.
Repartez vers la placette carrée et tournez à gauche.
Déjà, le jeune s'éloigne. Catherine tourne dans le petit carrefour carré, jouxtant le grand cercle qui, avec ses bancs de pierre, offre un coin de repos insolite au milieu des tours.
Jamel Pierre Bayouad, le voilà, le JPB du Nouveau Cœur. Zora Ben Citri et Jamel Pierre Bayouad. Jean-Paul Boulard et Jamel Pierre Bayouad. Deux jeunes amoureux, à quelques décennies d'écart. Et Jamel Pierre, lui aussi, veut voyager. Oh, je hais les coïncidences.
Catherine reprend sa déambulation et reste perdue dans ses pensées. Ce que lui a appris Jamel Pierre n'est pas fait pour la rassurer.
Madame Chifoulili, professeure de français, exilée roumaine du temps de la persécution de Ceausescu, il faut absolument que je la rencontre.
Elle longe la rue de Copenhague, puis prend à droite dans la rue de Stockholm.
Copenhague, Stockholm, avec ce soleil, ses mûriers platanes, ses micro-couliers. On est loin de la Scandinavie. Et moi, je cherche toujours ma petite sirène. Quel chant envoûtant, quelle musique au charme puissant pourra me conduire jusqu'à elle?
Allez vers la gauche, sur la place, en direction de la fontaine.
Encore une fois, elle ressent un certain malaise. À chaque fois qu'une pensée lui traverse l'esprit, la vie semble lui répondre par des signes tangibles.
Les initiales gravées sur le cyprès, le saxophone qui joue du Schumann, la maison brûlée de son enfance, la rencontre avec Jamel Pierre Bayouad, le nouveau JPB et son radeau.
Son JPB, Catherine l'avait revu. Enfin, pas en chair et en os, mais à la télévision. Il était devenu reporter animalier et parcourait la planète pour ses reportages. Et souvent, son nom apparaissait au générique des documentaires sur les bêtes sauvages qu'elle essayait de ne jamais rater.
Au moins, il a fini par réaliser ses rêves. Et moi, quels étaient mes rêves? Jeune adolescente un peu triste au Canourgue, puis étudiante trop sérieuse en droit à Aix-en-Provence. En fait, je crois n'avoir jamais eu de grandes ambitions. Je suis devenue flic par devoir de mémoire. Ou alors pour exorciser mes terreurs. Et si je regarde tous ces documentaires, n'est-ce que par nostalgie d'un passé irrémédiablement révolu? Ah, peut-être devrais-je aller sur Facebook ou sur Copains d'avant pour tenter de renouer une relation avec Jean-Paul. Peut-être. Ou pas. À quoi bon, hein? Ma vie sentimentale a connu assez de ratés comme ça. Faudrait que je mûrisse un peu, peut-être, non?
Faites une pause à l'ombre de la fontaine.
Elle arrive maintenant sur une grande place, austère, presque stalinienne. Les arbres, trop jeunes, ne dispensent qu'une ombre mesquine. Quelques bancs isolés. Au centre, une fontaine qui, elle, ne dispense rien du tout. Et sur la gauche, l'immeuble de la Renaissance, impassible. À quelques mètres, un papa apprend le vélo sans petite roue à sa fille, qui pousse des cris, autant de peur que de gaieté. Peu de gens stationnent sur cette place, et les rares personnes de passage paraissent pressées de la traverser. Catherine aime cette cité. Non seulement parce qu'elle est la part de jeunesse qui lui arrache autant de sourires que de soupirs, mais aussi parce qu'elle est verte, très verte même. Et elle semble perméable. Aucune grille, aucune séparation entre les immeubles, seuls les méandres des allées au nom de capitale. Elle la trouve vivante. Elle reconnaît ces réseaux sociaux que tissent entre elles des femmes qui luttent tous les jours pour une vie digne. Elle connaît ces gamins insouciants qui font du bruit au pied des tours. Elle aime ce côté multiculturel qui la rend aussi électrique que fascinante.
Humaine, quoi.
Et bien des gens du quartier ne quitteraient leur Canourgue pour rien au monde. Par contre, cette grande place nue la met mal à l'aise. Elle l'évite le plus souvent, préférant de loin les allées qui cheminent à travers les immeubles.
Cette place fait un peu peur, non?
Oui, c'est ce que je me disais à l'instant. Encore une qui est dans mes pensées.
Marchons un peu, voulez-vous?
Volontiers.
Prenez l'allée arborée, sur le côté de la place.
Elle quitte la fontaine et se dirige vers le mile Aranda de Duero.
Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une grande concertation avec les gens du quartier pour savoir ce qu'ils voulaient en matière de place. J'ai moi-même emmené des enfants visiter d'autres places dans d'autres villes pour qu'ils se fassent une idée. De cette concertation, il est ressorti une évidence. Tout le monde voulait une petite place de village provençal avec sa petite fontaine moussue, ses petits coins intimes pour se rencontrer, pour discuter, pour pique-niquer à l'ombre des platanes. Une aire de jeu pour les gamins. Bref, quelque chose de très classique, de simple, d'intime et de convivial.
Et alors?
Eh bien voilà, une grande esplanade vide, des bancs épars et une fontaine très moderne qui n'a pas d'eau.
Et pourquoi ne la fait-on pas couler?
Ah, en premier, il y a eu des problèmes de raccordement. Et ensuite, l'hiver, quand elle débordait, le sol s'est transformé en patinoire, donc trop dangereux.
Pourquoi ne pas la changer alors?
Oh, c'est une œuvre signée, intouchable. Je suis Madame Chifoulili.
La professeure de français de Zora?
C'est ça.
Je suis la commissaire Bouzy.
Je sais.
Oh, je ne me savais pas déjà si célèbre qu'un orgue. Vous habitez le quartier, il me semble.
Je suis devenue propriétaire du fameux côté ouest de l'avenue, mais finalement, je suis revenue de ce côté-ci. Il me manquait une chose essentielle, la vie des voisinages.
Jamel Pierre Bayouad m'a dit que vous connaissez bien Zora, qu'elle est une de vos meilleures élèves.
La meilleure. Elle a un don pour l'écriture. Et je l'encourage avec mes petits moyens. Je lui fais découvrir les auteurs et elle m'en redemande toujours. Ah, c'est des pains bénis pour un professeur de français.
Et cette disparition soudaine, vous avez une explication?
Hélas, non. En fait, j'essaie de me persuader qu'elle s'est tairée quelque part pour écrire. Mais en réalité, je suis très, très inquiète.
Elle ne vous a parlé de rien? Rien laissé entendre sur d'éventuels projets?
Non, pas vraiment. Ah, je dois vous dire que je l'ai inscrite à un concours de littérature organisé par le Conseil général. Le sujet de cette année est d'inventer une histoire sur son quartier. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a appris qu'elle allait les traiter sous forme de nouvelles policières.
Policières? Est-ce qu'elle aurait pu mettre son nez dans de mauvaises affaires pour parfaire son histoire ou nourrir son imagination?
Ah, je ne sais pas. Zora a les qualités et les défauts des passionnés de son âge. Elle se croit immortelle. Elle peut foncer tête baissée pour un sujet qui l'enthousiasme.
Ouais. Enfin, pourvu que même tête baissée, elle ait gardé les yeux ouverts.
Au rond-point, vous reprendrez à droite l'avenue Schumann.
Elles sont maintenant au bout du mal. Elles tournent sur la droite et se retrouvent de nouveau sur le boulevard Schumann.
Savez-vous si auparavant elle avait déjà disparu sans prévenir?
Pas à ma connaissance. Enfin, pas exactement. Je me souviens qu'au décès de son papa, on avait cru qu'elle avait disparu.
Une fugue?
Au contraire. Hein, c'était son petit frère qui s'était enfui, rempli de désespoir. Personne ne l'avait remarqué, mais Zora, elle l'avait pressenti et elle était partie à sa recherche. On les a retrouvés quelques heures plus tard, tous les deux, près du canal. Zora serrant dans ses bras son petit frère en larmes.
Catherine reste sans rien dire. Une nouvelle fois, saisie par les informations qu'elle découvre petit à petit. Madame Chifoulili tend la main vers Catherine.
Madame la commissaire?
Catherine ne répond pas. Elle paraît tétanisée. Les yeux dirigés vers des pensées trop profondes pour être partagées.
Catherine? Et je dois vous quitter, des copies à corriger.
Ah oui, oui, pardon. Au revoir, Madame Chifoulili.
Lily, c'est bien suffisant.
Oui. Au revoir, Lily. Et merci de votre temps. Je vais retourner au commissariat.
Bonne chance pour la suite, Madame la commissaire. J'ai toute confiance en vous. Si quelqu'un doit retrouver Zora, ce n'est peut-être que vous.
Loin d'être aussi confiante, Catherine se dirige à nouveau vers le commissariat.
Le temps passe, le temps presse. Que faire de ma maigre pêche?
Madame la commissaire Bozzi se sent désemparée. Elle doit retourner au commissariat, mais n'en a plus la force. Elle longe les immeubles, l'esprit agité.
Je suis bien sur une frontière.
En effet, le boulevard est la séparation entre deux mondes. À l'est, la cité proprement dite, qu'elle vient de quitter. Et à l'ouest, des immeubles aussi, mais à l'évidence, plus résidentiels, plus cossus. Ce sont, de ce côté ouest, des logements d'accession à la propriété, des habitations privées. Et qui dit propriété dit protection. À l'ouest, tout est fermé, encerclé de grillages, avec des parkings privatifs et des rues bien marquées. En face, la cité, aussi imposante soit-elle, semble ouverte sans restriction aucune. On peut aller d'un immeuble à l'autre sans avoir à contourner aucune clôture, sans avoir à montrer patte blanche à aucun portail aussi automatisé que déshumanisé.
Tournez à droite dans la rue de Dublin.
Je hais les frontières. Toutes les frontières, de pays, de culture, de religion. Elles ne sont que l'expression d'une peur de l'autre et la source de tous les conflits.
Elle tourne dans la rue de Dublin et se dirige vers le Maas. Cette enquête la trouble de plus en plus. Remue trop de souvenirs, bons et mauvais.
Zora, Zora ! Pourquoi réveiller ces fantômes ? Mon père, mon petit frère, mon amour d'enfance. Qui es-tu, Zora ?
Dirigez-vous vers le Maas, sur votre gauche. Faites le tour du Maas d'Oceto.
Catherine arrive vers le Maas. Ce Maas qui, jadis, abrita la maison pour tous et qu'aujourd'hui on appelle espace citoyen. Mais surtout, il abrite la bibliothèque.
Si Zora est tellement férue de littérature, on doit sûrement trouver des gens qui la connaissent bien.
Catherine accélère sa marche, comme si cette nouvelle pensée la stimulait. La musique se tait. Seul le cri des enfants dans le square devient perceptible. Le Maas d'Oceto a été sauvé de l'urbanisation sauvage par une pétition de militants conscients de l'importance de ce symbole de l'avant-cité. Il est comme un îlot précieux, perdu au milieu d'un océan de béton. Catherine se dirige vers le puits du Maas. Elle tourne autour, l'inspecte. Vérifie qu'il est totalement obstrué par une plaque d'acier, sans aucune marque récente.
Mais non, mon imagination m'entraîne trop loin. Le joueur de saxophone des Canourgues ne noie pas les enfants dans les puits.
Elle contourne le Maas pour se trouver devant l'entrée de la bibliothèque. Par bonheur, les arbres centenaires ont été sauvés. Un énorme tilleul, un magnifique cyprès, un somptueux magnolia. Tous ces arbres ont été témoins des changements brutaux du siècle dernier. Mais ils sont toujours debout, fiers et accueillants. Catherine admire particulièrement le grand tilleul sur lequel ils grimpaient, Jean-Paul et elle-même, en cachette des fils des propriétaires, Antonin et Blaise d'Oceto.
Quand je pense que Blaise et Antonin dormaient dans cette pièce, et qu'avec Jean-Paul caché dans le tilleul, on les embêtait en jetant des petits cailloux sur leurs fenêtres pour leur faire peur.
Catherine se met à rire, tout fort, comme une soupape, pour évacuer les tensions de cet après-midi.
Dirigez-vous vers le square pour enfants, en passant sous la petite porte de pierre.
Blaise et Antonin se la pétaient, non ? Et ils vous regardaient de haut, vous les enfants du...
Catherine Bozzi se retourne et voit une toute jeune fille qui la regarde fixement.
Zora ?
Catherine est interloquée. La jeune fille ne dit rien, pousse le portail du square et entre dans le jardin d'enfants. Elle va s'asseoir sur un banc. Elle reste muette. Elle a le regard clair, presque trop sérieux. Catherine est prise entre colère et soulagement. Elle a envie de crier, mais elle ne sait que dire. La jeune fille lui fait signe de s'asseoir à côté d'elle. Elle met un doigt sur sa bouche.
Chut.
Asseyez-vous sur un banc.
Et la jeune fille se met à parler.
Je suis Zora Ben Citri.
Zora ? Mais tu te rends compte que la moitié de la ville est à ta recherche ? Que tout le monde tremble de peur en pensant à ce qui a pu t'arriver ?
Ne vous inquiétez pas, commissaire Bozzi, je gère la situation.
Comment ça, tu gères la situation ? Où étais-tu passée ?
Là où moi seule pouvais vous retrouver.
Me retrouver, moi ?
Vous trouver ou vous retrouver, comme vous voulez.
Tu me suivais ? Tu m'es pillée pendant tout ce temps ?
Je vous imaginais surtout.
M'imaginer ?
Madame Chifoulili vous l'a dit, je ne manque pas d'imagination.
Tu te cachais pour écrire, c'est cela ?
C'est ça, j'écrivais. Mais c'est dans les mots que je me cachais et c'est vous que j'écrivais.
Tu te cachais ? Mais enfin, Zora, dans quel monde vis-tu ?
Un autre monde, ça c'est sûr.
Comment ça ?
Mais t'as pas remarqué, Catherine Bozzi, que ce sont exactement les mêmes lettres qui forment ton nom et le mien, Zora Ben Citri ?
Nos deux noms forment un anagramme ?
Exactement. Et toutes ces ressemblances entre ta vie et la mienne, toutes ces coïncidences qui te troublaient tellement, ce n'est que l'auteur qui s'inspire des petites choses de sa propre vie pour les utiliser dans un roman. Je suis désolée, madame la commissaire, mais tu n'es que le produit de mon imagination.
Ton imagination ? Je ne suis qu'une fiction ?
Eh oui, je voulais voir si tu pouvais exister, être comme moi je suis dans ce quartier.
Si je te comprends bien, je suis en train de rencontrer mon créateur.
C'est ça, un tour de magie de l'auteur.
Et tu es contente de ce que je suis ? Je veux dire, de comment tu m'as écrite ?
Je sais pas, mais je crois que tu es devenue un personnage crédible et grâce à toi, je vais peut-être gagner ce concours.
Si je n'ai été qu'une fiction, au moins je n'aurais pas été une fiction inutile.
Aucune création n'est inutile.
Ah, Zora.
Catherine se penche pour embrasser la jeune fille et n'en sert que du vide. Leur rencontre ne peut être qu'imaginaire. Elle se redresse alors, sourit à Zora, mais ses yeux disent cette tristesse qui ne la quitte jamais totalement.
Je suis sûre que nous nous retrouverons très vite, madame la commissaire.
Tu as d'autres histoires à écrire sur moi ?
Qui sait ? La commissaire Bozzi a peut-être d'autres énigmes à résoudre.
Catherine s'en va et sans se retourner, crie de loin.
Je suis contente !
Et Zora écrit.
Fin.
Vous écoutiez l'insolite histoire de Zora Ben Citri. Auteur et direction d'acteur, André Lévesque. Avec les voix de Cyriane Boussena, André Lévesque, Agnès Rigolo, Catherine Sparta, Liam Texier et Xavier Thomas. Réalisation, José Vicente, Institut musical de formation professionnelle de Salon de Provence. Au piano, Fabrice Thévenin et au sax, Alexandre Lantieri. Thank you.
Ah, je pense que c'est bon.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Services numériques innovants du ministère de la Culture et de la Communication. Cette promenade est réalisée en coproduction avec la ville de Salon de Provence.